Europe 1, Culture Média.
Et je salue Romain Noquet et je vous salue toutes et tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média, au menu tous les médias et toutes les formes de culture. Il y aura évidemment Bruno Donnet pour ses télescopages, Jean-Luc Lemoine et sa session de rattrapage. Et dans quelques instants, le journal des médias de Louise Bernard. Notre info média va se pencher sur ce qui avait été annoncé comme le Netflix à la française et qui est en train de sombrer en rase campagne après seulement 2 ans et demi d'activité. La plateforme Salto de vidéos à la demande par abonnement, lancée par le trio TF1, M6 et France Télévisions, est proche de la liquidation. On verra comment et pourquoi. Nos invités ensuite, la documentariste Agnès Pizzini et le réalisateur Olivier Ayache-Vidal pour un exceptionnel docu-fiction, l'affaire d'Outreau, ce scandale pédophile mais aussi judiciaire comme vous ne l'avez jamais vu, avec une manière de filmer et de raconter totalement hors norme. On va peut-être comprendre comment 12 innocents ont pu passer 3 ans en prison, sans parler de l'inextinguible souffrance des enfants. Enfin, l'humoriste Gad Elmaleh pour son dernier spectacle à voir sur Canal+. Ça s'appelle d'ailleurs Spectacle solaire et lumineux. On parlera aussi de son dernier film hors norme lui aussi, consacré à la rencontre avec la Vierge Marie, toujours à l'affiche, et puis de sa rencontre le mois dernier avec le pape. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Au sommaire, Louise, de votre journal des médias.
TF1 lance ce soir l'ultime saison de Balthazar. Pourtant, la série cartonne. Alors pourquoi l'arrêter? Eh bien, on en parle avec l'acteur Thomas Sisley. Delphine Arnaud dénonce la privatisation du sport dans une interview qui sera diffusée ce soir sur Europe 1. On vous dévoile un extrait en avant-première. Twitter, de son côté, lutte pour avoir des annonceurs et donc des revenus. Et puis la mort d'une grande plume du canard enchaîné. Et en fin de journal, des décors de Plus belle la vie détruits.
Mais d'abord, on va démarrer par les audiences, comme chaque matin, qu'ont regardé les Français hier soir le top 3.
C'est l'heure de la télécommande. Et puis pas de gros score hier. The Resident sur TF1 prend la tête des audiences avec 2 580 000 téléspectateurs en moyenne, 13,1% de part d'audience, suivi de pas trop loin par la série de France 2 Le Code, 2 470 000 téléspectateurs hier soir, 12,6% de part d'audience. C'est équivalent au score de la semaine dernière. Et puis The Resident, pardon, remontait par rapport à la semaine précédente. Et puis troisième, c'est France 3 avec Secret d'Histoire, 2 120 000 téléspectateurs. 10,8% de part d'audience.
Europe 1, le journal des médias.
TF1 lance ce soir la 5e et dernière saison de Balthazar.
Oui, c'est cette série policière portée par Thomas Sisley. Il y incarne un médecin légiste décalé, farfelu, bon, original, quoi, un personnage plein d'humour aussi. Et pour cette 5e saison, l'accent est vraiment mis là-dessus, d'ailleurs, après une 4e un peu plus sombre. C'est un retour aux fondamentaux pour cette ultime saison promise à de belles audiences, car c'est l'une des séries les plus suivies à la télévision. Près de 6 millions de téléspectateurs en moyenne sur les 4 saisons, et ça s'est maintenu, c'est ça qui est important aussi. Le succès ne s'est pas démenti au fil des épisodes. Alors à quoi tient justement ce succès? On en a parlé avec Thomas Sisley.
Je serais bien incapable de vous dire ce qui plaît à autant de millions de gens. Je peux vous dire ce qui me plaît, moi, dans ce personnage. C'est cette dualité entre ce garçon un peu enfantin, un peu espiègle, mais qui est en fait juste un masque de clown pour cacher les larmes de sa sensibilité. C'est un garçon meurtri, extrêmement sensible, et qui du coup cache ça en faisant le guignol. Et moi, c'est ça qui me touche.
Mais alors, pourquoi arrêter une série qui fonctionne? Ce n'est pas logique de la part de TF1 qui cherche forcément de l'audience. C'est parce que ça n'est pas une décision de leur part, pas une décision de la chaîne, mais c'est celle de l'acteur.
Je voudrais surtout pas faire la saison de trop. Moi, j'ai très peur de lasser. J'ai très peur de tout à coup tourner en rond et pas réussir à me renouveler. Moi, j'ai adoré camper ce personnage, j'ai adoré interpréter Balthazar. Et maintenant, il y a d'autres horizons qui m'attendent. Je retourne au cinéma, je suis en train de préparer Largo Winch 3, là. J'ai commencé à produire des projets qui m'intéressent. J'ai produit d'ailleurs un unitaire là pour TF1, dont je suis très fier. Donc tout ça, ça prend du temps. Et tourner Balthazar, ben, c'est très chronophage également. Donc à un moment donné, on ne peut pas tout faire.
Et encore une question, Louise. Thomas Sisley arrête Balthazar, mais pourquoi TF1 ne continue pas avec un autre comédien comme les James Bond?
Alors, qui ont eu plusieurs comédiens. C'est une bonne question. TF1 n'a pas répondu officiellement. Moi, je pense que c'est parce que le personnage, contrairement à James Bond, c'est le rôle de James Bond qui est le plus fort. Thomas Sisley, il porte vraiment ce personnage de Balthazar. Je pense que le succès tient beaucoup à lui, même s'il n'a pas voulu le dire en interview. Puis il s'est beaucoup impliqué en plus dans le projet. Il écrivait aussi les vannes, il écrivait beaucoup de choses. Il travaillait, il allait jusqu'en montage, c'est ce qu'il m'a dit. Donc voilà, je pense que ça tient beaucoup à Balthazar. Et puis 5 saisons, finir sur sur un succès. C'est pas mal aussi pour une série de ne pas être en chute libre. Il faut bien les renouveler aussi, ces fictions, de temps en temps.
C'est un comédien qui va dans les salles de montage, c'est pas souvent. Ça démarre plutôt la 5e saison, la dernière, démarre ce soir sur TF1 à 21h. Tout à fait autre chose, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernot, invitée d'Europe 1 Sport, ce soir à 20h.
Oui, un entretien avec Jacques Vendroux enregistré hier. Entretien pendant lequel Delphine Ernot revient sur l'obtention des droits de diffusion des Jeux Olympiques jusqu'en 2032 sur France Télévisions. Elle détaille aussi les contours de la future émission de Carole Gessler sur France 3. Et puis elle insiste sur un point en particulier, son combat contre la privatisation du sport, c'est-à-dire qu'elle veut que le public ait accès gratuitement à la diffusion de compétitions. Et donc au cours de cet entretien, elle revient notamment sur l'épisode Roland-Garros de la saison dernière. Souvenez-vous, la plus belle affiche de la compétition s'est retrouvée diffusée sur Amazon Prime Video et non pas sur France Télé. C'était le quart de finale Nadal-Djokovic.
Il faut se défendre de cette privatisation du sport. C'est ça qui m'avait rendue furieuse au moment du match de Roland-Garros l'année dernière, puisqu'il était sur Amazon. Et donc, voilà, il fallait avoir un abonnement Prime, même s'ils ont dit que c'était gratuit. En fait, il fallait quand même donner sa carte bleue. Enfin bref, c'était pas si gratuit que ça. Et ça, je trouve que c'est un problème.
Il était sur Amazon parce qu'Amazon avait acheté les droits des matchs en nocturne. Il était à 20h, les matchs du soir.
Exactement.
Voici pourquoi il était sur la chaîne Amazon, canal Amazon.
Et donc, ça avait provoqué la colère de Delphine Ernot. Et on l'a compris, hein, elle veut empêcher donc cette privatisation du sport. Mais comment ? Elle souligne quand même un problème de taille, les finances.
Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on nous sommes capables de résister aux moyens financiers assez considérables de concurrents comme Amazon, comme peut-être Netflix un jour, de ces grandes plateformes américaines qui ont des moyens qui dépassent largement ceux des chaînes nationales privées ou publiques.
Voilà pour ces extraits en avant-première de l'interview de Delphine Ernot qui sera diffusée ce soir à 20h dans Europe 1 Sport. C'est réalisé par Jacques Vendroux.
Actualité, on va cette fois du côté des réseaux sociaux. Twitter lutte pour avoir des annonceurs.
Oui, car 500 d'entre eux seraient partis depuis l'arrivée d'Elon Musk à la tête du réseau social, d'après le site américain The Information. Et les recettes publicitaires sont donc en chute libre. Pour vous rendre compte, si on prend la journée de lundi, eh bien un an plus tôt, les revenus de ce même jour étaient 40% plus élevés. Alors, il faut quand même être honnête et préciser que cette chute des revenus de Twitter ne date pas uniquement de l'arrivée de Musk, mais le phénomène s'est évidemment amplifié. C'est dû à l'assouplissement notamment de la politique de modération des contenus qui fait peur à ses annonceurs. Alors pour les reconquérir, Twitter fait des réductions, c'est un peu les soldes chez eux aussi. Le Wall Street Journal révèle que si vous achetez pour 250 000 dollars de publicité, vous en obtenez deux fois plus. Et détail qui a son importance, ces publicités offertes pourront être diffusées pendant le Super Bowl aux États-Unis. Pourtant, c'est la période où les coûts publicitaires sont traditionnellement les plus élevés.
Et toutefois, en parallèle de la fuite des annonceurs, Louise, certains annonceurs sont restés.
Oui, ça, on l'apprend par un autre site d'information américain, Axios. C'est le cas en fait de ligues sportives, mais aussi, plus étonnant, de médias, notamment Bloomberg, Reuters, The Wall Street Journal. Ils n'ont pas trop envie de communiquer dessus, aucun n'a voulu faire de commentaires.
Et puis on a appris hier la mort d'une figure du Canard Enchaîné, Jean Clémentin.
Une grande plume de l'hebdomadaire, il est décédé début janvier à l'âge de 98 ans, on l'apprend dans le Canard Enchaîné. Il avait rejoint ce journal en 60 jusqu'en 89, date à laquelle il avait décidé de se consacrer à la littérature. Mais l'an dernier, on avait reparlé de lui suite à un article paru dans l'Obs. C'était une enquête qu'il accusait d'espionnage pour la Tchécoslovaquie entre 57 et 69, après des découvertes d'un historien. L'Obs racontait que sous le nom de code Pipa, Jean Clémentin aurait remis pas moins de 300 notes et il aurait aussi publié des articles de désinformation dans le Canard Enchaîné, des articles écrits en fait par les services secrets tchécoslovaques. Cette semaine, en annonçant sa mort, le Canard Enchaîné conclut son refilet par ces mots « Fin de partie, tchèque et mat ».
Les décors de Plus belle la vie dont on entend le générique, ces décors sont en train d'être détruits.
Mais oui, la fameuse place du Mistral, vous savez, elle ne sera bientôt qu'un lointain souvenir. C'est ce que nous raconte le site d'information Actu Marseille. C'est une conséquence évidemment de l'arrêt de la série après 18 ans de diffusion. En fait, le bail des studios loués par la société de production Newen arrive à terme. Et les décors de la place du Mistral n'étaient pas déplaçables, selon l'adjoint à la culture de la ville de Marseille. Est-ce que ça compromet alors tout avenir pour Plus belle la vie, comme les décors font partie de l'ADN du feuilleton ? Pas sûr, parce qu'un collectif d'acteurs s'est formé au moment de l'arrêt de la série pour tenter de faire renaître ce feuilleton ailleurs. Mais comment faire sans décor ? Eh bien, une membre de ce collectif s'est confiée à Actu Marseille, l'actrice Florence Demey. Elle affirme ne pas baisser les bras. Elle dit que c'est l'occasion d'un nouveau départ, même si c'est un coup dur émotionnellement. Et puis elle insiste surtout sur l'importance des personnages plus que du décor. Mais bon, ce nouveau Plus belle la vie n'est pas encore né, il faut que le collectif puisse acquérir les droits de la série. Des négociations sont en cours.
Merci beaucoup Louise Bernard. À demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour, Salto, le Netflix à la française tel qu'il était annoncé. La plateforme de vidéo à la demande par abonnement lancée par TF1, M6 et France Télévisions est proche de la liquidation. Que s'est-il passé ? Pourquoi ? Comment ? Combien d'abonnés ? On en parle dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h.
Culture Média.
Philippe Vandel.
On nous avait annoncé le Netflix à la française, mais l'aventure risque de s'arrêter au bout de 2 ans et demi. Lancé en octobre 2020, Salto, la plateforme SVOD commune à TF1, M6 et France Télévisions, n'a pas réussi à se faire une place dans le marché de la vidéo à la demande, très concurrentiel derrière les mastodontes américains Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple+, ou le plus français, Canal+, Série et le MyCanal. Alors que s'est-il passé ? Pourquoi Salto n'a-t-il pas réussi à convaincre et atteindre son objectif d'abonnés ? Est-ce que tout cela était prévisible ? Est-ce que c'était donc une faillite annoncée ? Pour en parler ce matin avec nous, Jamal Eni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, journaliste pour le site d'investigation économique L'Informé. Si on revient sur la chronologie, Salto avait d'abord été annoncé en juin 2018, puis ça a pris un peu de retard, c'est extrêmement français ce phénomène, il a fallu attendre le feu vert de l'autorité de la concurrence. Finalement, Salto a été lancé en octobre 2020. On avait parlé ici même dans Culture Média, évidemment. L'objectif était d'atteindre le million d'abonnés fin 2021. Où en est-on déjà du point de vue des abonnés ?
Ben, le million n'est pas encore atteint, il devrait atteindre bientôt avec un an de retard sur les prévisions.
L'objectif c'était d'offrir un service de streaming français pour rivaliser, je le disais, avec les plateformes américaines, ça n'a pas marché. Que s'est-il passé ?
Ben, y a des raisons internes et des raisons externes. Alors en ce moment, Salto et ses actionnaires parlent beaucoup des raisons externes. Les raisons externes, c'est les opérateurs télécoms et l'autorité de la concurrence. Les opérateurs télécoms, ils ont refusé de distribuer Salto parce que les opérateurs télécoms ont des rapports tendus, comme vous le savez, avec les TF1 et M6 depuis quelques années, depuis 2016, depuis que TF1 et M6 leur demandent de l'argent pour distribuer leur chaîne.
Pardonnez-moi, Jamal Eni, les opérateurs télécoms, pour qu'on comprenne, ce sont les box.
Oui, Orange, Free, SFR ont refusé de mettre Salto sur leur box.
D'accord.
Et ça s'explique par le contexte tendu depuis 2016 entre les opérateurs télécoms d'une part et TF1 et M6, parce que TF1 et M6 ont demandé en 2016 à recevoir de l'argent, et ce qu'ils ont obtenu d'ailleurs, ils touchent à peu près 100 millions d'euros par an de la part des opérateurs télécoms pour diffuser leur chaîne. Mais les opérateurs télécoms sont un peu rancuniers, et quand donc TF1 et M6 sont venus leur voir en disant « Ah, on a un super produit qui s'appelle Salto, est-ce que vous voulez le mettre sur les box ?» Eh ben, ils se sont fait éconduire. L'autre réseau externe, c'est l'autorité de la concurrence, qui a dû être consultée, parce que TF1, M6 et France Télé son concurrent, évidemment, dans la télévision gratuite. Donc l'autorité de la concurrence a dit, écoutez, on veut bien que vous collaboriez sur Salto, mais on ne veut pas que vous en profitiez pour vous entendre au passage à la fin des réunions sur d'autres sujets comme les tarifs de pub, etc. Donc l'autorité de la concurrence a imposé une muraille de Chine autour de Salto pour qu'il n'y ait pas de coordination anticoncurrentielle sur d'autres sujets. Mais il y a évidemment des raisons internes dont je peux vous parler, parce que les vraies raisons de l'échec de Salto, c'est surtout le produit.
Oui, avant de parler même du contenu, moi je me souviens, je vais vous dire, je ne sais pas vous, mais pour une fois, je ne suis pas surpris, au moment du lancement, le budget d'investissement de Salto annoncé était de 50 millions, au même moment, celui de Netflix, ils voulaient faire un Netflix à la française, Salto 50 millions, celui de Netflix était de 8 milliards de dollars. Et on se disait quand même que c'était mal parti, comment lutter ? C'est comme si on faisait une course à pied avec un boulet au pied.
Oui, mais à ce moment-là, on n'atteindra jamais le budget de Netflix, donc ça ne sert à rien de démarrer.
Oui, mais l'annonce, je vais vous dire pourquoi je cite ça, c'est que l'annonce qui avait été faite était un Netflix à la française. Alors peut-être n'aurait-il dû pas annoncer des résultats aussi brillants, des résultats anticipés aussi brillants.
C'est-à-dire que la comparaison avec Netflix que vous faites, vous avez raison, est vraiment très favorable à Netflix et très défavorable à Salto. Aujourd'hui, Netflix, vous pouvez l'avoir à 5,99€ avec de la pub, tandis que Salto est à 6,99€. Et quand on regarde les contenus, chez Netflix, vous avez beaucoup de séries exclusives, vous avez même quasiment que ça, tandis que chez Salto, vous avez très très peu de programmes exclusifs. Mmh. L'essentiel des programmes de Salto, c'est les programmes que vous voyez sur TF1, M6 et France Télévisions. Alors, vous les voyez un peu en avance, à quelques jours d'avance, vous voyez aussi les anciennes saisons des séries, mais c'est essentiellement des programmes qui passent à la télé et aussi qui sont disponibles en replay pendant une semaine ou un peu plus en gratuit sur le site de TF1, M6 et France Télévisions.
Justement,
les programmes réellement inédits sur Salto, j'avais compté, c'est seulement 1,7% des programmes. Donc évidemment, c'était très déceptif quand on compare à Netflix.
Ouais, Netflix, je pour citer aussi à l'époque, je ne sais plus qui disait, Netflix c'est 10 000 films et séries. Comment concurrencer 10 000 films et séries de Netflix avec des épisodes de Louis la Brocante? Il n'y a pas que ça, mais il y a peu de nouveautés franchement flamboyantes. Qu'est-ce qu'on trouve sur Salto qui donne envie de mettre 6,99€ par mois?
Ben, pas grand-chose. Pas grand-chose. Alors, à l'origine, le projet Salto était conçu comme une sorte de replay étendu. En payant des programmes de TF1, M6 et France Télé. Il y avait peut-être un marché pour ça, mais sûrement pas à ce prix-là. Peut-être pour quelques euros par mois, j'aurais peut-être été prêt à payer pour ça, mais pas pour 6,99€.
Et il y a une raison aussi que vous n'avez pas citée, et vous allez me dire si elle est interne ou externe, c'est la fusion qui était annoncée l'été dernier de TF1 et M6. Les deux principaux groupes privés français ne se sont pas associés, à cause justement de l'autorité de la concurrence, si je me souviens bien. Est-ce que ça a à voir dans le désengagement de ces chaînes dans le projet Salto ?
A priori, ça n'a rien à voir, parce que Salto existait avant le projet de rachat de M6 par TF1. Ça existait pendant le projet de rachat. Et même d'ailleurs, si vous vous souvenez, pendant le projet de rachat de M6 par TF1, TF1 et M6 n'arrêtaient pas de dire « il faut absolument qu'on fusionne, parce que comme ça, on va pouvoir faire un super Salto, un gros acteur français du streaming qui permettra de concurrencer Netflix, Disney+, et compagnie. »
Oui, je me souviens même que Delphine Ernotte était favorable à la fusion TF1-M6, notamment pour cette raison.
Voilà. En réalité, il y a une conséquence un peu indirecte, c'est-à-dire suite à l'échec du rachat, le patron Martin Bouygues a remercié le patron de TF1 qui s'appelle Gilles Pélisson, l'a remplacé par Rodolphe Belmer, et Rodolphe Belmer, une de ses premières décisions a été d'arrêter Salto, considérant que c'était un échec et que ça perdait trop d'argent.
Pour quelle raison? Enfin, vous me l'aidez de le dire, mais pourquoi considérait-il que c'était un échec? On sait par avance que ce sont des investissements longs dans la télévision. Pourquoi pensait-il que ça ne se relèverait jamais?
Bah, structurellement, Salto a perdu environ 200 millions d'euros à ce jour, ce qui est plus que prévu. Le nombre d'abonnés, on l'a dit, il est inférieur, il a un an de retard sur les prévisions. Et je pense qu'il a fait la même analyse que celle qu'on vient de faire, c'est-à-dire que conceptuellement, le produit n'était pas assez attractif par rapport à Netflix et compagnie. La stratégie de Rodolphe Belmer, d'après les échos qu'on a, c'est de se concentrer sur les programmes gratuits et de doper un peu le site MyTF1 avec plus de programmes gratuits.
Ouais, TF1 a lancé MyTF1 Max, notamment.
Alors, comme vous dites, Salto a une autre embûche sur sa route, c'est que à partir d'un certain moment, TF1 et M6 se sont mis à vouloir concurrencer Salto. TF1 et M6 ont chacun lancé des offres payantes qui concurrençaient Salto, qui proposaient à peu près la même chose que Salto, c'est-à-dire du replay étendu. Et voilà, donc chez TF1, ça s'appelle MyTF1 Max. Chez M6, ça s'appelle Sisplay Max. C'est vendu 3€ par mois. Et ça s'est mis à concurrencer Salto. Donc ils se sont tirés eux-mêmes une balle dans le pied. Et les équipes de Salto étaient assez furieuses quand elles ont découvert ces lancements.
Que va devenir Salto? Ils vont couper le robinet ou est-ce qu'un repreneur est encore possible? L'arrivée d'un repreneur est encore possible?
Il y a une société espagnole, une petite société espagnole, Agile, qui a proposé de reprendre toute partie de la société, mais ça paraît assez peu probable. Le plus probable est en effet une liquidation de Salto.
Et que va-t-il se passer pour les abonnés? On va les rembourser de la somme qu'ils ont payée par avance? Ou est-ce qu'on est débité chaque mois?
Écoutez, ça, je ne sais pas. Je pense qu'on va évidemment arrêter de faire payer les abonnés quand il n'y aura plus de service. En théorie, ce qui pourrait se passer, c'est que Donc lors d'une liquidation, les actifs sont cédés un par un à des repreneurs, etc. Donc un des actifs, c'est le portefeuille de clientèle. Donc en théorie, il pourrait y avoir quelqu'un qui dit « moi, je veux reprendre le portefeuille de clientèle ». Mais la question est qu'est-ce que ce repreneur, mettons Canal par exemple, dit « moi, il y a 1 million d'abonnés, un peu moins, ça m'intéresse, je vais leur proposer mon service à moi ». Mais bon, là, ça c'est la théorie, parce qu'en pratique, donc sur Salto, vous avez... essentiellement les programmes de TF1, M6 et France Télévisions. Donc ça, évidemment, un repreneur qui n'est pas un des trois ne pourra plus proposer ça, ou alors pourra le proposer en lâchant très cher et donc en retombant dans les mêmes problèmes. Donc je vois pas trop de solutions.
On est le jeudi 19 janvier. Demain, vendredi, Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, devrait acter la dissolution de Salto. Je vous remercie, Jamal Hany, de vos lumières. Je rappelle que vous êtes journaliste pour le site d'investigation économique L'Informé. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. Dans un instant, la documentariste Agnès Pizzini, le réalisateur Olivier Ayache-Vidal pour un exceptionnel documentaire fiction consacré à l'affaire d'Outreau. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
C'est une affaire hors norme, bien plus qu'un fait divers, l'affaire d'Outreau. Il est question de pédophilie, 4 années de procédure et 2 procès pour arriver à ceci. 12 enfants reconnus victimes d'agressions sexuelles et seulement 4 personnes reconnues coupables. Oui, mais 13 personnes totalement innocentes qui ont passé plusieurs années en détention pour être ensuite acquittées par un jury populaire. Au-delà du juge Burgot, pourquoi et comment aucun garde-fou, aucun policier, aucun magistrat n'a été capable de stopper cet emballement. C'est une affaire hors norme et un traitement télévisuel hors norme. Bonjour Agnès Pizzini.
Bonjour.
Votre actu, c'est ce docu-fiction, l'affaire d'Outreau sur France 2. Ce sera mardi prochain à voir les 2 derniers épisodes à 21h. L'intégrale, 4 épisodes à voir sur France Télé. L'affaire d'Outreau, c'était il y a 20 ans. Avec vous, avec nous, Olivier Ayache-Vidal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur, vous avez signé la mise en image de ce documentaire. Avant de voir comment, mais les sujets sont liés, question pas facile pour Agnès Pizzini, ce doc n'aurait pas pu exister sans le recul de 20 années.
Absolument. À l'époque, cette affaire avait suscité énormément d'émotions parce qu'au début de l'affaire, on parlait d'un effroyable réseau de pédophilie dans le nord de la France. Et puis ensuite, il y a eu le temps du procès, des procès. Et lors des procès, un incroyable retournement judiciaire avec au final un énorme fiasco judiciaire. Donc sur les 17 personnes mises en cause, 13 personnes acquittées après avoir passé des années en détention provisoire.
L'exercice le plus difficile, mais depuis le temps que vous travaillez sur ce projet, comment résumer l'affaire d'Outreau pour qui ne l'aurait pas vécu, pas connu, pas entendu ?
Eh bien, c'est donc l'histoire de 17 personnes qui ont été mises en cause par des enfants ainsi que des adultes dans le cadre de viols et d'agressions sexuelles. Sur ces 17 personnes, 4 personnes ont été condamnées par la justice à des années de prison et 13 personnes ont finalement été acquittées, elles, après avoir passé des années en prison. Pour rien.
Alors il y a beaucoup de faux-semblants, de mensonges, de fantasmes, sans parler de la parole des enfants qui eux aussi ont parfois dit des choses fausses. Vous avez eu besoin d'un traitement visuel ad hoc, hors norme, des images d'archives, des interviews de protagonistes, de l'enquête, des reconstitutions, des comédiens. Ça va plus loin que ça. Olivier Ayache-Vidal, racontez-nous le procédé. Comment avez-vous mis tout cela en image ?
Bah, du coup, c'était une volonté, dans la mesure où moi je viens du cinéma, de faire une narration un peu différente et une mise en scène différente.
C'est Agnès Pizzini qui vous a appelé.
Oui,
parce que Agnès, vous butiez sur des difficultés en vous disant mais comment on peut se sortir de cet inextricable maelstrom ?
Absolument, en fait, il fallait absolument trouver une mise en scène originale pour montrer l'énorme fiasco judiciaire et donc mettre en image les reconstitutions des auditions dans le bureau du juge, dans le bureau des policiers, mais sans rester aux simples reconstitutions comme on a l'habitude de voir et qui, moi, souvent, ne me plaît pas beaucoup. Et donc, du coup, j'ai fait appel à Olivier qui a trouvé cette idée géniale.
Racontez l'idée.
À la base, en fait, en étudiant le dossier, en rencontrant les victimes, on s'est aperçu que c'était vraiment un jeu de pendule entre la réalité, la fiction, le vrai, le faux. C'était très difficile de démêler ça.
Et parce que pendant le procès, j'explique, ouais. Les protagonistes mentent. Ça va même plus loin. Même des gens innocents s'accusent de crimes qu'ils n'ont pas connus. Et c'est totalement difficile de détricoter le vrai du faux.
C'est ça. Et là, on a mis pas mal, plusieurs semaines, pour vraiment essayer de comprendre dans le dossier d'instruction. Et puis, en fait, du coup, l'idée m'est venue en allant à la Tour du Renard et essayer de faire un voyage dans le temps, vu que c'était 20 ans on revenait 20 ans plus tard sur cette affaire. Et en fait, donc, le principe de base, si vous voulez, pour le résumer assez rapidement, c'est que les protagonistes vont retourner dans un studio dans lequel sont reconstitués tous les décors de l'affaire, comme on le disait, le bureau du juge, les tribunaux, les cellules de prison, etc. Et vont
mais aussi le salon de Myriam Badawi et son mari.
Oui, le salon de Myriam Badawi, oui, j'allais un petit peu vite, mais enfin voilà, il y a tous les décors. Et en fait, les protagonistes de l'affaire vont rentrer dans ce studio au moment où ils rentrent eux dans l'affaire et vont revisiter cette affaire en la voyant à travers des situations qu'ils ont vécues.
Ça va même encore plus loin puisqu'il y a par exemple il y a un personnage qui parle qui est un des quatre enfants de Myriam Badawi Delay qui voit une scène jouée par un enfant comédien qui joue lui, admettons qu'il ait 26 ans, il joue lui à 6 ans.
Oui, le principe c'était que chacun des protagonistes rencontre son double aussi dans le studio qui va l'interpréter dans la situation. Donc en l'occurrence comme par exemple Jonathan Delay qui intervient, qui a aujourd'hui 27 ans, enfin voilà depuis le tournage, il avait 6 ans à l'époque. Donc effectivement, il se voit lui à 6 ans dans la situation face aux policiers en train de raconter ce qui s'est passé. Et ça, juste je précise que tous les dialogues sont intégralement issus des procès-verbaux. Donc ça, c'était extrêmement important.
Et ça va même encore plus loin, parce qu'ici, toute l'équipe était complètement sciée, c'est que Jonathan Delay arrête le tournage, comme dans une émission présentée par Paul Amar. Il fait stop, c'est pas possible d'entendre ça, parce que ma mère dit ça, mais en fait c'était faux, elle pouvait pas savoir ceci et cela.
C'était le principe. Ils avaient le droit d'intervenir au moment où ils le voulaient, et c'était aussi cette idée de voyage dans le temps. Parce que c'est un voyage dans l'espace, puisqu'ils vont, tous les décors sont dans le même espace, dans le voyage dans une mémoire, mais c'est également un voyage dans le temps, et donc eux interviennent. Il y a cette dimension fantastique.
Voilà. Vous savez quoi ? J'ai pas 20 ans de moins, mais moi aussi, paf, je fais une pause. Culture Média revient. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Toujours en compagnie de la documentariste Agnès Pizzini, du réalisateur Olivier Ayache-Vidal, on parle de ce documentaire exceptionnel, l'affaire d'Outreau. D'abord, l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les curiosités médiatiques. Et ce matin, vous avez mis la main sur une perle que l'on doit au travail des journalistes du journal Le Monde.
Oui, un travail remarquable, Philippe, que vous trouverez en ligne sur le site du journal. Car les journalistes Charles-Henri Groux et Benoît Hopquin ont relevé un défi formidable, un défi sonore que nous autres amoureux de la radio ne pouvons que saluer tant il est prodigieux. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il est question d'un discours, d'un monument de notre histoire, l'appel du 18 juin.
Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres.
Car contrairement à ce que vous pourriez croire, Philippe, la voix que vous venez d'entendre n'est pas la voix du général de Gaulle. Tout simplement parce que de l'appel du 18 juin 1940, il ne reste strictement aucune trace, aucune archive, ni vidéo, ni même sonore. Eh oui, la BBC qui l'a diffusée ne l'a pas enregistrée et n'en a donc conservé aucune mémoire. Elle n'a archivé les bandes-sons des interventions du général qu'à partir du 20 juin. Alors, en collaboration avec l'IRCAM, qui est le centre français de recherche sur le son, nos confrères du Monde ont réussi à reconstituer cet appel. Comment ? Grâce à l'intelligence artificielle. D'abord, ils se sont procurés des enregistrements de la voix du général de Gaulle. Un puissant logiciel. On a étudié le rythme, les intonations, le souffle, et puis ils ont demandé au comédien François Morel de lire un texte.
Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français à se mettre en rapport avec moi.
La machine a ensuite mélangé la voix du comédien avec les données scientifiques qu'elle avait recueillies et elle est ainsi parvenue à créer une voix artificielle, une sorte de clone vocal du général de Gaulle, une voix de synthèse.
Moi, général de Gaulle, j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
Toutefois, Philippe reste encore à surmonter une autre difficulté et pas des moindres. Car figurez-vous que si nous n'avons pas d'archives sonores de cet appel, nous n'avions pas non plus de texte. Les mots prononcés le 18 juin 1940 par De Gaulle étaient jusqu'ici un mystère. Seulement voilà, au terme d'un travail de recherche opiniâtre, les enquêteurs du Monde sont parvenus à le retrouver, car ils ont mis la main sur un type épatant. L'historien suisse Christian Rosset, qui a passé une bonne partie de sa vie à fouiner dans les documents confidentiels des services secrets helvétiques, lesquels, pendant la guerre, écoutaient la BBC stylo en main et sont donc les seuls à avoir retranscrit mot pour mot le discours original de Gaulle. La suite, c'est l'historien qui la raconte, document sous les yeux sur le site du Monde.
Le bulletin du 19 juin 1940 à 6h du matin, dans lequel on trouve les transcriptions des émissions radio de la nuit et à la page 3, la transcription de l'appel du général de Gaulle à 22h sur la radio anglaise.
Alors voilà, on dispose aujourd'hui enfin du véritable texte de l'appel du 18 juin et d'une voix qu'on jurerait être celle de Gaulle.
Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire, car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule.
Une voix dont l'intelligence artificielle est même parvenue à intégrer une nuance extrêmement subtile, car les auteurs de l'enquête font remarquer qu'en juin 40, De Gaulle n'était pas encore l'orateur grandiloquent de la libération, mais un jeune général âgé de 49 ans dont la voix était encore inquiète et un peu tâtonnante.
Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale.
Ces trois minutes légendaires et ce travail si précieux pour l'histoire sont en ligne sur le site du Monde et au miracle numérique. Si vous en prenez la direction, vous y trouverez la voie.
Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain. C'est impressionnant cette reconstitution.
Ouais, c'est incroyable.
On revient, on parle de reconstitution, on parle de l'affaire d'Outreau, Agnès Pidini. Vous réalisez ce documentaire avec Olivier Ayache-Vidal qui est passé mardi. C'est à voir en replay, ça, la suite en linéaire. Les épisodes 3 et 4 passeront mardi prochain. Je reviens au récit. Toute cette histoire de l'affaire d'Outreau est dingue, je l'ai dit, car non seulement les accusés mentent, ce qui est le cas dans toutes les enquêtes, mais aussi dans tous les procès, mais là, des innocents mentent. Agnès Pidini, qui est Daniel Legrand?
Alors, Daniel Legrand a été accusé dans cette affaire avec son père. Daniel Legrand a 20 ans, son père à peu près entre 35 et 40 ans. Il est ouvrier. Daniel, lui, a 20 ans et il rêve de football. Et tous les deux vont être embarqués dans cette affaire parce que accusés par Myriam Badawi.
Mais elle ne les connaissait pas, elle cite ce nom au pif.
Absolument.
Il faut raconter ça. C'est qu'elle dit qu'il s'appelait Daniel Legrand et on trouve des Daniel Legrand en Belgique.
En fait, c'est une espèce de concours de circonstances absolument incroyable. Donc, elle balance ce nom, Daniel Legrand. On ne sait pas exactement, enfin, c'est passé par les enfants, elle a repris le nom. On ne sait pas exactement comment le nom est passé entre les enfants jusqu'à la mère. Bon, il y a des avocats qui ont laissé entendre que ce serait le juge d'instruction qui lui aurait soufflé ce nom. En tous les cas, la question lui a été posée lors de la commission parlementaire. Le juge Burgot a nié, mais bon, voilà. Et donc, ils se sont retrouvés embarqués et incarcérés comme ça, du jour au lendemain, sans comprendre ce qui leur arrivait.
Ce qui est quand même fou, c'est que quand la police arrive pour, au domicile de Legrand, on vient chercher Daniel Legrand, on lui dit oui, le père ou le fils. Il ne savait même pas qu'il y avait deux Daniel Legrand.
C'est fou. C'est dans le deuxième épisode, on va voir Daniel Legrand, fils, accusé à tort. Il n'a donc rien à voir avec l'histoire, il n'est jamais allé à Outreau, il ne connaît pas les Badawi. Quand soudain, dans le bureau du juge, là c'est de la reconstitution, pour sauver sa peau, il s'accuse de quelque chose qu'il n'a pas commis.
Monsieur Bourgault, j'aimerais revenir sur les propos et dire la vérité. J'étais bien à Outreau, chez Myriam et Thierry. J'ai fait l'amour avec leurs enfants. Je les ai connus là-bas, à Outreau.
Quand est-ce que ça s'est passé?
C'est comme elle a dit, Madame Badoui, en 96, et ça s'est fini au début de l'année 2000.
Et vous êtes allé en Belgique?
Non, c'était toujours chez elle.
D'accord, et les personnes de votre famille venaient avec vous?
Non, j'étais toujours seul, mon père, il est pas dedans.
Alors là, c'est le comédien qui joue Daniel le grand-fils. Ensuite, dans la reconstitution, le juge, mais ça s'est passé comme ça, lui montre des photos de protagonistes. Et il reconnaît, ou alors il dit reconnaître des gens qu'il ne connaissait pas, dont l'un qui filmait. Et maintenant, on va entendre le vrai Daniel le grand-fils qui explique pourquoi il a écrit cette lettre dans laquelle il invente tout. Il va même plus loin, il invente le meurtre d'une petite fille belge. On va l'entendre, puis on va entendre son avocat qui était lui-même totalement surpris par cette lettre.
Bah, j'ai un espoir, c'est que j'ai fait une demande de liberté provisoire, que je vais être libéré avec mes faux aveux. que j'étais dans le sens du juge Burgot.
Daniel Legrand me demande de faire cette demande de remise en liberté puisqu'il a vu que Aurélie Grenon, une des accusatrices, a fait des aveux et est en liberté.
Agnès Pizzini, on va voir aussi des enfants témoigner, porter des accusations dont on sait qu'elles sont totalement fausses, totalement imaginaires. On va laisser de côté le cas des enfants. D'abord, Daniel Legrand, comment peut-on arriver à s'accuser de crimes qu'on n'a pas connus, qui peuvent vous conduire pour 15 ou 20 ans en prison?
Alors Daniel Legrand est très jeune, il est bouleversé par ce qui lui arrive, et un jour lors d'une audition, il se rend compte que une jeune femme qui l'accuse et qui avoue avoir violé des enfants comparaît libre. Elle est là devant le juge, elle est en liberté, il ne comprend pas pourquoi lui qui est innocent, pourquoi lui il est en prison et cette jeune femme est libre. Et donc il se dit, bon ben peut-être qu'il suffit d'accuser les autres et de s'accuser pour pouvoir être libre. Et ça paraît un peu simpliste, mais c'est son raisonnement à l'époque. Et puis il se dit aussi qu'à un moment donné, tout ceci est tellement gros qu'ils vont finir par comprendre. Donc il s'accuse de viol et il va finir par inventer un meurtre imaginaire dont il pense que les protagonistes de l'affaire vont dire que c'est un terrible mensonge. Eh bien non, ils vont valider ce meurtre imaginaire.
Je saute évidemment des étapes parce que c'est 4 épisodes de 52 minutes, très difficile à résumer en quelques instants, mais soudain, en plein procès, après avoir entendu les témoignages des enfants, Myriam Badawi, la principale accusée, craque en plein procès, elle avoue qu'elle a menti.
J'ai menti sur tout. Je suis une malade et une menteuse. Je voulais vous le dire aujourd'hui. Il y avait Thierry Delay, Aurélie Grenon et David Delplanque. Finalement, on n'était que 4. Dimitri, il a menti sur beaucoup de personnes, mais pas sur nous 4.
Ma mère est innocente, la plupart des prévenus, mis à part ceux qui avaient avoué, donc le couple de voisins et eux-mêmes. Et là, c'est la sidération la plus totale, malgré que nous, les enfants, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Donc là, c'est... La chute est brutale.
La chute est brutale, c'est David qui parle, le fils du couple Delay-Badawi, mais lui-même avait menti.
Alors c'est Jonathan.
Jonathan, pardonnez-moi. Lui-même avait menti.
Alors on va pas le dire comme ça. Jonathan, à l'époque des faits, il avait 6 ans et il raconte ce qui lui est arrivé. Donc il a été réellement et là il n'y a pas de doute là-dessus abusé par ses parents et par un couple de voisins. Et donc effectivement sa mère, lorsqu'elle vient disculper la totalité des personnes mises en cause, eh bien lui il se sent trahi. Et effectivement les enfants suite à ça sont passés pour des menteurs et ça a été d'ailleurs terrible pour la suite des événements.
C'est un sujet extrêmement sensible. On est en France, qui dit succès dit polémique. Il est venu de la cinéaste Andrea Bescon, auteur du film Les Chatouilles, dans lequel elle racontait les actes de pédophilie dont elle a été victime quand elle était enfant. Elle a estimé, c'était sur TV5 Monde avant-hier, elle parle de ce documentaire. Elle dit on n'avait pas besoin de faire cette immense rétrospective autour de l'affaire Dutroux et le sujet qui nous intéresse. Elle dit je trouve qu'il y a toujours une façon de décrédibiliser la parole de l'enfant en France. Dès qu'il y a une occasion, on la saisit. Que lui répondez-vous?
Alors je ne sais pas si elle a vu Andrea Bescon la série, mais ce film est un film autour de du recueil de la parole des enfants et des adultes. Et c'est bien de ça dont il s'agit. Et c'est ça que l'on raconte et qu'on l'on met en cause. Et donc c'est un sujet qui est toujours au cœur du débat. Et je crois que cette série a le mérite de le raconter.
Quel a été le rôle des médias? Il y a eu beaucoup normalement au moment de l'affaire Grégory, parce qu'on fait toujours des parallèles. Là, on a l'impression que c'est un journaliste qui a aidé à ce que la vérité éclate.
Alors, ce n'est pas un journaliste, hein, c'est des journalistes.
Mais notamment cette enquête journaliste belge.
Alors voilà, le journaliste belge,
qui
lui...
a fait le travail de base. Par exemple, il s'est rendu dans le fameux immeuble où le juge Burgot ne s'était jamais rendu, ce qui paraît totalement aberrant.
Ouais, c'est incroyable. En fait, les Belges, eux, ils sortaient de l'affaire Dutroux. Ils pensaient retrouver une affaire Dutroux à la française. Et donc, finalement, ils sont allés sur le terrain, comme ils avaient l'habitude de faire, enquêter et se rendre compte que le juge n'était jamais venu, que les policiers n'avaient jamais interrogé les voisins. Comment c'est possible? Alors qu'on parle de dizaines de 4x4 qui se rendent à la Tour du Renard, sachant qu'il n'y a pas d'ascenseur, on est au 5e étage sans ascenseur, on entend les gens monter, descendre, etc. Les policiers n'étaient pas venus enquêter et leur poser des questions. Donc, bon, voilà, il y a des trucs assez délirants.
Et celui qui est présenté comme la tête de réseau ne sait même pas envoyer un SMS, ne sait même pas tirer de l'argent, il ne peut pas filmer, il ne s'est pas servi d'une caméra, il habite chez sa fille, il dort dans une voiture, c'est juste impensable. Dernière petite question, à la fin, il y a un récit de ce que sont devenus tous les protagonistes, à l'exception notable du juge Burgot. Pourquoi ne le dites-vous pas ?
Alors le juge Burgot, moi je l'ai rencontré, je lui ai proposé de participer à cette série. Il a décliné l'invitation, il est aujourd'hui à la Cour de cassation et il va très bien.
On terminera sur ce très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Agnès Pizzini, Olivier Ayache-Vidal. Documentaire exceptionnel à tous les sens du terme, l'affaire d'Outreau. À voir mardi prochain le 24 à 21h. Vous pouvez déjà voir l'intégrale, les 4 épisodes sur France Télé. Merci sur France.tv. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Merci.
Culture Média, on continue évidemment sur Europe 1. Il y aura les infos de 10h. Gad Elmaleh, l'humoriste, on parle de son dernier spectacle à voir sur Canal. Ça s'appelle D'ailleurs. Et puis dans Les Indispensables, musique avec Stéphanie Loire. Et puis Olivier Benkemoun, cinéma. Jean-Luc Lemoine pour sa session de rattrapage. À tout de suite sur Europe 1. Culture Média sur Europe 1.